Laudetur Jesus Christus.
Après la prise d'Alep par les djihadistes, inquiétude pour les chrétiens du nord de la Syrie et pour environ 50 000 déplacés. Nous entendrons le cardinal Zenari, le nonce apostolique à Damas. Nous reviendrons également dans notre dossier sur ce nouveau développement de la guerre civile syrienne avec Pierre-Jean Luizard, spécialiste du Proche-Orient. En France, le gouvernement minoritaire de Michel Barnier en sursis. Le Premier ministre a choisi de jouer son va-tout sur le budget, d'engager la responsabilité de son équipe avec le 49-3. Le pays pourrait cette semaine se retrouver donc sans gouvernement. Les Géorgiens ne décollèrent pas, les manifestations contre le gouvernement à peine installé se poursuivent en toile de fond, le futur européen de ce pays du Caucase. Et puis rien ne va plus pour Volkswagen, le premier constructeur allemand, symbole du modèle économique d'Outre-Rhin, essuie déconvenue sur déconvenue. Ses employés se sont mis en grève pour protester contre de possibles fermetures d'usines.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. L'inquiétude grandit donc au sein de la communauté internationale au sujet de la Syrie après la chute d'Alep ce week-end, prise par une coalition de groupes rebelles et de djihadistes. Près de 50 000 personnes ont pris la route pour fuir ce qui ressemble à la percée de l'État islamique il y a une dizaine d'années. Le secrétaire général de l'ONU se dit alarmé par la récente escalade de la violence. Il appelle à la cessation immédiate des hostilités. Même son de cloche à Washington, l'Union européenne, elle, a condamné les frappes russes sur des zones densément peuplées, la Russie tentant d'aider son allié Bachar al-Assad. Inquiétude aussi pour les communautés chrétiennes déjà affaiblies de la région d'Alep, inquiétude exprimée par le cardinal Zenari, le nonce apostolique à Damas.
Je suis en contact avec les communautés chrétiennes, les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses d'Alep pour voir comment la situation évolue. Dans certaines zones, c'est assez calme, mais c'est suspect. Il y a beaucoup de peur. Les bureaux gouvernementaux ont disparu, tout comme l'armée que l'on ne voit pas. Il y a des groupes armés qui circulent et qui ont promis de ne pas s'attaquer à la population civile. Jusqu'à présent, il semblerait qu'ils aient respecté cela, mais les personnes ont quand même peur et se sont enfermées chez elles. Il y a quelques jours, ceux qui ont pu ont fui précipitamment en voiture. Malheureusement, ici, l'espérance est morte, elle meurt et dans certains cas, elle est déjà enterrée. Espérons que le jubilé, dont le thème est pèlerin de l'espérance, puisse apporter une bouffée d'oxygène à cette population qui depuis 14 ans souffre de la guerre, de la faim, du manque de travail. Voilà la situation. L'unique souhait de la population, comme je le disais, est de fuir. Avec ces derniers événements à Alep, ce souhait d'émigrer a augmenté.
Le cardinal Zenari, le nonce apostolique en Syrie. Après avoir demandé l'évacuation de la zone nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne a appelé à évacuer les zones sud. Mais où aller pour la population palestinienne ballottée dans un territoire déjà exigu et ravagé par les bombardements israéliens et les combats? Vers la côte, indiquent les autorités israéliennes qui affirment y avoir à délimiter une zone humanitaire. L'armée israélienne toujours active au Liban malgré le cessez-le-feu hier, le président du Parlement libanais a accusé Israël de l'avoir violé à au moins 54 reprises. Israël, pour sa part, reproche au Hezbollah d'avoir tiré sur une zone contestée aux confins du Liban et du plateau du Golan. En réponse, l'armée israélienne a procédé à des tirs contre deux villages libanais, tuant 9 personnes. Malgré ces bombardements, les États-Unis affirment que le cessez-le-feu tient. L'urgence pour le Liban semble être l'élection du président de la République. La France et l'Arabie Saoudite appellent à la tenue du scrutin. C'est ce qu'ont déclaré le prince héritier saoudien et le président français depuis Riyad hier. Emmanuel Macron y effectue une visite d'État de 3 jours au cours de laquelle un partenariat stratégique a été signé afin de renforcer les liens entre les deux pays. Emmanuel Macron qui suit donc de loin la crise politique qui se joue en France. Hier soir, le Premier ministre a fait adopter sans vote le budget de la sécurité sociale, faute de consensus parmi les députés. À conséquence, 2 motions de censure ont été déposées. Les votes auront lieu mercredi ou jeudi. Et Michel Barnier, chef du gouvernement minoritaire depuis 2 mois à peine, pourrait donc être renversé. Les précisions de Marie-Christine Manson.
Au terme de la Constitution, une motion de censure peut être spontanée, c'est-à-dire prise à l'initiative de certains députés, ou alors provoquée part l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. C'est le cas des deux motions déposées hier contre Michel Barnier. Demain ou jeudi, le chef du gouvernement fera face à une motion de censure émanant des partis de gauche, réunis au sein du Nouveau Front Populaire, et une autre émanant du Rassemblement National et de ses alliés issus du Parti Républicain. Pour être adoptée, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue, soit 287 voix. La seule à avoir fait chuter un gouvernement remonte à 1962. C'était une motion spontanée, déposée par les opposants du président Charles de Gaulle au projet d'élection du chef d'État au suffrage universel. Les centristes, les socialistes et la droite non-gaulliste avaient alors rassemblé les voix nécessaires, obtenu la démission du Premier ministre Georges Pompidou et amené le général de Gaulle à dissoudre l'Assemblée. Mais l'élection présidentielle au suffrage universel fut adoptée quelques jours plus tard lors d'un référendum. Le mois suivant, les gaullistes remportaient les législatives et le général de Gaulle renommait M. Pompidou à la tête d'un nouveau gouvernement. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
En Roumanie, le premier tour de la présidentielle validé par la Cour constitutionnelle, le candidat d'extrême droite Călin Georgescu affrontera bien la maire centriste d'une petite ville, Elena Lasconi. Saisie par un candidat malheureux, les juges avaient ordonné un recomptage des votes. Aucune fraude n'a été révélée. Les Roumains pourront donc s'exprimer dimanche 8 décembre. Déjà 5 nuits que les Géorgiens manifestent contre le gouvernement à peine installé. La capitale Tbilissi a connu de nouveaux troubles. L'opposition pro-européenne réclame de nouvelles élections législatives. Elle dénonce la décision des autorités de repousser à 2028 la reprise du processus d'intégration à l'Union européenne. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Des milliers de manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés hier soir devant le Parlement à Tbilissi, un bâtiment devenu au fil des jours l'épicentre des tensions entre policiers et manifestants. Des tensions que les propos du Premier ministre géorgien n'ont pas apaisées. Si Irakli Kobadidze a assuré hier que son gouvernement ferait un maximum d'efforts pour intégrer la Géorgie à l'Union européenne, il a par ailleurs affirmé qu'il n'entamerait pas de négociations avec l'opposition. Le chef de l'exécutif a en outre dénoncé le fait que les manifestations étaient soutenues par une ingérence étrangère. Les manifestants reprochent en effet au gouvernement d'avoir repoussé à 2028 les démarches en vue d'une adhésion à l'Union européenne, alors que cet objectif est inscrit dans la Constitution. Fort du soutien de Washington, Bruxelles et Kiev, ils accusent également Rêve géorgien, le parti qui dirige le pays depuis 2012 et que les législatives du mois d'octobre ont reconduit au pouvoir, d'avoir volé les élections grâce à des fraudes. Des accusations que Rêve géorgien dément, tout en accusant les manifestants et leur soutien de vouloir, à l'instar de l'Ukraine, entraîner la Géorgie dans une guerre avec Moscou. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Après les 650 millions d'euros d'aide apportés hier par le chancelier allemand lors de sa visite à Kiev, l'Ukraine va recevoir 725 millions de dollars supplémentaires de la part des États-Unis, ce qui comprendra notamment des missiles et des mines antipersonnelles. C'est ce qu'a annoncé hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est assez rare pour être souligné. En Allemagne, les salariés de Volkswagen se sont mis en grève hier pendant 2 heures dans tout le pays. Ils s'opposent au plan de restructuration du groupe automobile qui prévoit la fermeture possible de 3 usines et la suppression de milliers d'emplois. Les précisions sur cette crise avec à Berlin, Delphine Herbollier.
9 des 10 usines allemandes étaient en grève hier. Un débrayage de 2 heures, comme l'autorise la loi, et auquel ont participé des milliers de salariés. À Wolfsburg, par exemple, devant le siège du groupe, une foule dense s'était rassemblée à l'appel du puissant syndicat IG Metall. Le but de ces grèves, qui devraient se renouveler, est de faire pression sur la direction pour qu'elle abandonne ses projets de restructuration. Volkswagen prévoit de fermer 3 usines dans le pays et de supprimer jusqu'à 10 000 emplois, du jamais vu depuis 30 ans, dans un groupe. Premier constructeur automobile européen. Les syndicats et le comité d'entreprise de Volkswagen ont fait un geste ces derniers jours envers la direction. Ils accepteraient un gel des salaires en échange de la non-fermeture d'usines et du maintien de l'emploi. Insuffisant, répond la direction, qui évoque des problèmes structurels au sein du groupe et surtout auprès de la marque phare, Volkswagen. Après le scandale du diesel en 2015, elle s'est lancée dans le tout électrique, mais avec trop de retard. Aujourd'hui, elle peine face aux constructeurs chinois. Des négociations reprendront la semaine prochaine avec l'objectif de trouver un accord avant Noël, mais à ce stade, les blocages restent nombreux. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
Au Vietnam, une vie peut valoir 20,25 milliards de dollars. En l'occurrence, la vie de Truong My Lan, ancienne magnat de l'immobilier, coupable d'une vaste escroquerie à 27 milliards de dollars. Le plus grand scandale financier qu'a connu le pays. Sa condamnation à mort a été confirmée aujourd'hui en appel par une cour du tribunal d'Ho Chi Minh Ville. Elle peut toutefois échapper à la peine capitale si elle rembourse donc les trois quarts des sommes détournées pendant une décennie. Retour dans notre dossier sur la Syrie où la chute d'Alep le week-end dernier ravive les pires heures de la guerre civile en 2015 et 2016. Principaux protagonistes de cette offensive sur la seconde ville du pays, les djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham, sans compter des opposants historiques à Bachar al-Assad, regroupés au sein de l'armée syrienne libre ou de forces kurdes. Toutes ces composantes témoignent d'un régime alaouite aux abois, dont les soutiens historiques que sont le Hezbollah et la Russie sont affaiblis ou mobilisés sur d'autres fronts. Le président Bachar al-Assad a dénoncé hier une tentative de redessiner la carte du Proche-Orient conformément aux intérêts et aux objectifs de l'Amérique et de l'Occident. Quoi qu'il en soit, la Syrie et la région semblent être à un nouveau tournant de leur histoire. Décryptage de cette reconfiguration avec Pierre-Jean Luizère, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste du Proche-Orient.
Pour comprendre les causes profondes de cette résurgence de l'insurrection djihadiste en Syrie, il faut se reporter non seulement à l'histoire, mais également à l'étendue géographique du Moyen-Orient, puisqu'on constate que les trois États de la Syrie, de l'Irak et du Liban vivent des crises similaires que l'on peut résumer en une crise du confessionnalisme politique qui a été instituée avec la fondation de ces États contre les majorités en s'appuyant sur les minorités. La Syrie a été tardive dans le fait de manifester ce confessionnalisme politique par rapport au Liban et à l'Irak où il était inavoué. Mais on voit aujourd'hui que les institutions étatiques fondées sous le régime des mandats français et britanniques au Levant et en Irak sont en train de s'effondrer parce que les printemps arabes ont remis en selle les revendications de la majorité chiite en Irak, sunnite en Syrie et chiite également au Liban.
Est-ce que l'on peut, avec vous, s'il vous plaît, avoir un peu une photographie de ces différents groupes et surtout de leur agenda?
Les groupes qu'on appelle soit les groupes djihadistes, soit les groupes rebelles, en fonction de leur adhésion à l'idéologie salafiste, sont multiples. Ils représentent plus des allégeances territoriales, claniques et tribales que de véritables divergences politiques. En gros, on peut dire que la Syrie est divisée en trois grandes zones. La zone contrôlée par le régime d'Assad qui risque de tomber à tout moment. La Jésirée entre le Tigre et l'Euphrate qui est dominée culturellement par des tribus arabes qui ont fait allégeance à Daesh. Et la Syrie dite utile, c'est-à-dire entre Damas et Alep en passant par Hama et Homs, où une branche d'Al-Qaïda reconnaît la légitimité des frontières syriennes, contrairement à Daesh, mais continue à se proclamer mouvement musulman, djihadiste pour les uns et uniquement politique pour d'autres. Donc on est face à une multitude de groupes armés qui sont souvent opposés les uns aux autres, puisqu'on a vu des affrontements armés dans la poche d'Idlib. C'est une manifestation de la majorité arabe sunnite qui a été écartée du pouvoir et réprimée depuis plusieurs décennies.
Aujourd'hui, que dit cette offensive de la faiblesse du régime Assad? Est-ce que l'on peut imaginer la fin du clan Assad?
On peut tout à fait imaginer la fin du clan Assad et au-delà la fin du confessionnalisme politique qui réserve à des minorités le monopole du pouvoir, comme c'est le cas du clan Assad qui représente ou qui veut représenter, parce que tous les Alaouites ne sont pas d'accord entre eux, cette minorité qui représente environ 10% de la population syrienne. Mais aujourd'hui, les forces régionales qui ont permis au régime d'Assad de se maintenir en place, l'Iran et surtout le Hezbollah libanais qui a sauvé le régime d'Assad, ne sont plus en mesure de le faire. Il y a donc toutes les raisons de penser que nous allons assister à la fin d'un système politique bien au-delà du régime d'Assad, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'avenir devant lui.
Interrogé par Olivier Bonnel, Pierre-Jean Louisard était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.